tout étranger qui est débouté de sa demande de titre de séjour peut engager une procédure devant le tribunal administratif qui statue sur les décisions prises par l'administration, soit la préfecture. Sophie Mazas est une jeune avocate qui depuis 4 ans assiste les sans-papiers dans leurs démarches judiciaires. Elle va exposer les cas les plus courants qu'elle rencontre. Elle nous expliquera que si elle gagne la majorité des affaires, c'est qu'elle devait gagner et que l'administration a commis une faute, alors soit par empressement, soit par manque de personnel, soit parce que les préfectures sont tenues de respecter les quotas d'expulsion. Bien sûr, il arrive que certaines affaires soient perdues d'avance et que la seule solution soit de trouver un vice de procédure comme le juge de la détention et des libertés peut le faire, lui qui contrôle la légalité de la procédure d'expulsion. Mais le rôle de l'avocat est de constituer un dossier où tous les aspects de la vie du client sont importants, dossier scolaire pour un enfant, promesse d'embauche pour un adulte. Sophie Mazas connaît bien toutes les articulations de la procédure, s'il s'agit de droit, ça n'est pas non plus technique, et chacun pourra comprendre les causes, les enjeux de ces procédures de régularisation.
Sophie Mazas, barreau de Montpellier, et je suis barreau de Montpellier et membre du syndicat des avocats de France.
On vous connaît parce qu'on vous voit défendre de nombreux cas de sans-papiers. Donc, bien avec vous, on va essayer de voir quels sont les cas les plus courants que vous rencontrez, la procédure dite normale.
Les sans-papiers, ça regroupe un grand nombre en fait, de cas et de situations. Mais avant de les détailler, c'est vrai qu'il serait intéressant de voir la procédure, puisqu'en fait, tout le monde se voit appliquer la même procédure. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une demande de titre de séjour ou quelqu'un qui a eu un refus de sa demande de droit d'asile se voit opposé par le préfet s'il lui refuse le séjour, donc un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Ce refus de titre de séjour et cette obligation de quitter le territoire peuvent être contestés dans un délai de 1 mois devant le tribunal administratif qui, lui, a 3 mois pour statuer. Ce qui fait qu'habituellement, on a une clôture d'instruction qui intervient dans le mois qui suit le recours et une date d'audience qui intervient dans le mois suivant afin que le tribunal en rende sa décision. Encore un mois après, on arrive à ce délai de 3 mois. Donc il faut, dès le premier mois, faire un dossier suffisamment complet pour pouvoir saisir le tribunal. Si jamais la personne est interpellée et placée en centre de rétention, le refus de titre de séjour est toujours audiencé dans ce délai de 3 mois, mais par contre, l'obligation de quitter le territoire est-elle audiencée dans un délai très bref de 48 heures afin de pouvoir statuer rapidement sur la question de l'obligation ou non de partir de l'étranger. Et dans cette hypothèse, le préfet saisit également le juge de la liberté et de la détention qui va vérifier que la procédure d'interpellation a bien été réalisée de manière légale et donc effectue un contrôle de l'égalité de l'ensemble de la procédure judiciaire d'interpellation et va également autoriser ou non le préfet à maintenir l'étranger en centre de rétention, sachant que la rétention est la règle et que l'assignation à résidence est uniquement à titre exceptionnel, est accordée à titre exceptionnel. Donc ça, c'est la procédure qui s'applique dans tous les cas de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire.
Donc après, il y a des cas particuliers.
On a autant de cas particuliers qu'il y a de particuliers d'individus, bien sûr, et de personnes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des grands profils types, on va dire, qui se dessinent, puisqu'on peut avoir pas mal de cas, par exemple, de jeunes majeurs scolarisés. Et ces cas de refus de séjour concernent tous les jeunes majeurs qui sont rentrés après l'âge de 13 ans. Sans visa et qui donc ne peuvent pas bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et se retrouvent à 18 ans confrontés souvent et le plus souvent à des refus de titre de séjour alors même que ça peut être des jeunes très brillants puisque moi je défends des personnes, des jeunes gens qui ont de très bonnes notes à l'école, qui sont dans des filières reconnues, scientifiques, etc. et qui ont des refus de titre de séjour. Ces jeunes-là sont... alors, soit ils réussissent plus ou moins dans les études, alors le juge a des critères d'appréciation pour savoir si on a porté une atteinte trop forte à la vie privée et familiale de ces jeunes, si on a porté atteinte à leur vie privée et personnelle, parce qu'ils ont fait des efforts pour s'intégrer. Donc, on a quand même pas mal de cas d'annulation des refus de titre de séjour dans ces cas-là. Par contre, c'est vrai que si on est face à un jeune, par exemple, qui a pas très bien réussi ses études ou qui n'a pas réussi à s'intégrer pleinement, c'est vrai que la plupart du temps, et qu'il n'y a rien de particulier dans son dossier, la plupart du temps, ce jeune voit son refus de titre de séjour, son obligation de quitter le territoire confirmée et est reconduit. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'apparemment, d'après les retours qu'on en a, leur situation est très difficile, puisqu'une fois qu'ils sont chez eux, ils sont un peu mis au banc, puisqu'ils sont, ils sont identifiés, un peu stigmatisés comme ayant échoué. Et donc, du coup, ils sont quand même un peu mis au banc, même chez eux, des jeunes. Et je crois que même ici, pour ces jeunes, c'est pas facile, puisqu'ils sont sans papier, donc ils sont un peu stigmatisés, on va dire, par leurs petits camarades. Donc voilà. Donc là, par exemple, vous avez un profil, entre guillemets, du jeune majeur scolarisé qui est assez récurrent, puisque, il faut le dire, souvent ce sont des travailleurs entrés dans les années 60-70 qui ne parlent pas le français, qui ne l'écrivent pas. Donc pour les procédures au regroupement familial, ils ne les ont pas mises en œuvre parce qu'ils ne les connaissaient pas et qui ont fait venir leur enfant sur leur passeport parce que ça marchait et qu'ils ne se sont pas trop posé de questions.
Je veux que l'on reconnaisse au gouvernement et au Parlement le droit de fixer catégorie par catégorie le nombre de personnes admises à s'installer sur notre territoire.
Après, vous avez comme autre profil, on va dire, récurrent, le conjoint de français. Alors souvent, on me dit « Ah, mais un conjoint de français, il a un titre, il est français ». Déjà, il n'a pas forcément un titre de séjour et il n'a pas forcément accès à la nationalité française tout de suite. Il faut plusieurs années pour avoir le droit de solliciter la nationalité française. Et le titre de séjour, c'est un titre de séjour de 1 an qui est délivré et renouvelé régulièrement et au bout de plusieurs années, il peut déboucher sur un titre de 10 ans. Et il faut avoir obligatoirement un visa pour obtenir ce titre de séjour conjoint de français. Avec d'autres cas particuliers, si vous êtes rentré avec un visa mais qu'il est périmé, vous pouvez le redemander ici. Si vous avez plus de 6 mois de vie commune, enfin, assez compliqué. Donc, c'est pas si simple que ça d'obtenir un titre en tant que conjoint de français. Alors après, vous avez aussi les gens qui se marient avec un étranger qui dispose d'un titre de résident de 10 ans. Donc, qui ont d'autres jurisprudences qui s'appliquent et d'autres textes de loi. Et puis, vous avez aussi les étrangers qui sont migrants économiques, qui n'ont pas d'attache familiale ici, qui n'ont pas fait leurs études ici, qui travaillent, qui ont pu essayer d'être régularisés avec la circulaire Sarkozy, régularisation à titre exceptionnel pour les chefs de chantier, les gens qui ont un bac plus 5, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de dossiers qui n'ont pas abouti et qui ont conclu à des qui ont été finalement refusés avec des refus de titre de séjour à la clé. C'est un autre, on va dire, un autre grand profil qu'il peut y avoir. Et puis vous avez les demandeurs d'asile qui, s'ils ont été rejetés par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile, se voient opposer un refus de titre de séjour. Donc avec tous les problèmes que ça peut entraîner, notamment le fait que quand vous êtes demandeur d'asile, vous êtes hébergé souvent, vous pouvez être hébergé dans un CADA, qui est un centre en fait mis en place par l'État qui prend en charge les demandeurs d'asile, tel que c'est prévu par la loi. Sauf que quand vous avez un refus d'asile, le CADA ne vous garde pas, et que quand le préfet vous écrit, souvent vous n'habitez plus là-bas, puisque les textes imposent que vous soyez parti. Donc finalement, vous êtes pris entre deux logiques administratives qui sont opposées, celle du fait que vous ne pouvez pas résider là plus longtemps que le temps imparti, et celle qui fait que le préfet vous écrit à cette adresse, parce que c'est celle qu'il a pour vous refuser le séjour. Si vous n'avez pas la notification, vous ne pouvez pas contester. Et le jour où vous êtes interpellé, c'est quand même appliqué, puisque vous êtes réputé l'avoir reçu. Donc ça crée quand même pas mal de problèmes.
Alors, ça fait combien d'années que vous, vous plaider pour des sans-papiers ?
Je suis dans ma 5e année de bar et ça fait à peu près autant que je pratique le droit des étrangers, de manière beaucoup plus intensive quand même depuis 2-3 ans.
Est-ce qu'on trouve vite le rythme ? J'imagine que c'est souvent la même chose et qu'une des caractéristiques, c'est qu'on est pressé par le temps ?
Alors, on est pressé par le temps, surtout depuis la dernière réforme où cette histoire de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire a été mise en place par la loi du 24 juillet 2006, des fois on vient un peu, donc n'est en place que depuis 2 ans, ou depuis 1 an, attendez, il faudra que je vérifie, mais en fait c'est très très récent, et donc depuis un an et demi là maintenant. Le rythme est extrêmement intensif, puisque auparavant on avait les refus de titre de séjour, mais qui étaient audiencés en 3-4 ans par le tribunal administratif. Là, on est passé à 3 mois. Et on avait les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, qui, eux, étaient audiencés dans un délai de 1 mois. Enfin, on avait ce délai de 1 mois qui courait. Sauf si on était en centre de rétention, on avait 48 heures. Là, c'est vrai que tout va beaucoup plus vite. Et puis, en plus, on a maintenant des procédures en urgence. Donc, où on a récemment eu le cas à Montpellier de problèmes de violation de droit d'asile. Où dans ces cas-là, on met en place des procédures de droit administratif général, comme le référé liberté, où le juge statue en 48 heures, mais il faut nous-mêmes le saisir très vite, donc c'est très rapide. Du coup, c'est vrai que les procédures sont extrêmement rapides, et donc nous, on met en place des mécanismes pour traiter au mieux les dossiers, de rendez-vous systématiques tous les 15 jours, donc la personne revient 15 jours après pour apporter les pièces, pour qu'on ait les dossiers les plus complets possibles. Puisque sinon, de toute manière, si les gens sont interpellés et qu'on passe dans le délai d'urgence de 48 heures, on a tout intérêt à avoir un dossier qui est bien constitué dès le départ pour pouvoir au moins plaider utilement devant le juge. Alors, c'est vrai que on va dire on a des grands profils récurrents, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les lois changent tellement vite et tous les ans, et on n'a jamais le temps de voir appliquer réellement une loi, qu'il y a déjà une nouvelle qui change, parce que pour des raisons qui, à mon avis, sont plus électoralistes que réellement de politique, on va dire, de mise en place d'une politique réelle en droit des étrangers, on a des nouvelles lois très, très, très fréquemment, ce qui nous conduit, nous, à faire des nouveaux argumentaires et donc finalement on n'a pas trop le temps de tomber dans une routine parce que on a énormément d'actualités jurisprudentielles et juridiques. Donc là, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer, même si c'est vrai qu'on a quand même des grands types en termes de faits. Mais après, tout se joue dans la nuance. Je veux dire, vous avez quelqu'un qui a redoublé dans son parcours, par exemple, scolaire, et quelqu'un qui n'a pas redoublé, ça peut faire la différence. Mais si cette personne a été malade, ça explique aussi pourquoi. Donc il faut aller chercher, il faut pousser aussi les gens dans leur retranchement un petit peu pour qu'ils nous livrent leur vie privée, pour qu'on puisse vraiment les défendre. Parce que c'est pas facile de tout donner, de révéler sa vie à un avocat que vous voyez très rapidement 2-3 fois et qui va vous défendre. Et c'est pas facile pour les personnes de nous révéler tout ça. Et donc il faut aussi qu'on aille à la pêche aux informations. Donc ça fait quand même une matière très très dynamique.
Votre rôle, c'est de gagner. Donc effectivement, vous allez à la pêche à ces informations.
Moi, mon rôle, c'est de défendre les intérêts des gens que je défends, puisque je suis avocat, donc c'est pour ça que je suis là. Donc c'est vrai que pour ça, il faut bien connaître les gens et essayer de bien les cerner, en tout cas, et de bien comprendre quelle est leur problématique pour porter au mieux leur voix et pour défendre au mieux leurs intérêts. Donc après, il y a quand même des cas, quand je dis quand même, c'est qu'il y a aussi des cas où on voit tout de suite, en prenant les décisions, qu'ils ont très très peu de chance, sauf vice de procédure qu'on trouverait en creusant et qui serait issu d'un revirement de jurisprudence. Il y a vraiment des cas où on sait que les gens ont 99% de risque de perdre. Et dans ce cas-là, il faut le leur dire, parce que nous, on est là pour les informer sur leurs droits. Et s'ils vont droit au mur, il faut leur dire qu'ils vont droit dans le mur. Et si on pense qu'il faut vraiment droit dans le mur, il peut aussi arriver qu'on leur dise qu'on ne va pas les défendre, parce qu'ils n'ont aucune chance et que ça ne servirait pas plus leurs intérêts. Et certains, parfois, préfèrent d'ailleurs retourner d'eux-mêmes dans le cadre de la politique de retour qui est mise en place, avec une petite prime, et puis c'est moins dur, finalement, comme ça.
Je vous annonce que j'ai fixé au service un objectif de reconduite à la frontière pour les clandestins, augmenté encore de 50% pour la seule année 2005.
Ce Sophie Mazas, justement, c'est peut-être l'occasion de parler, pas forcément du taux de réussite, mais parmi donc ces dossiers que vous traitez, est-ce qu'il y a énormément de réussite ? Est-ce que les gens s'en sortent ?
Alors moi, j'ai l'impression quand même, sur le nombre de dossiers que je traite, que j'ai quand même pas mal de cas où le tribunal nous donne raison. J'ai un sentiment un peu ambigu. Est-ce que je dois m'en réjouir ou pas ? Alors d'un côté, je me dis oui, c'est plutôt bien, c'est que j'arrive à bien faire mon travail. Mais en même temps, si on gagne, c'est qu'on devait gagner, parce que tribunal administratif, il juge en droit. Et si vous gagnez, c'est que vous deviez gagner, c'est que vous deviez pas perdre. Donc c'est quelque part, c'est pas objectif, puisque le tribunal administratif juge de la légalité d'un acte, de l'acte de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire. Et il y a quand même de nombreux cas où il y a quand même des problèmes d'analyse, il me semble, au niveau de la préfecture, qui sont essentiellement dus, je pense, au fait qu'ils sont peut-être pas très nombreux et qu'on leur impose un quota d'expulsion. Je veux dire, ça peut pas être indifférent à la manière dont sont analysés les dossiers.
Donc c'est de l'empressement.
De l'empressement ou du manque de personnel ou aussi de la nécessité d'avoir des résultats. Quand vous avez des conjoints de Français à qui on refuse un titre alors qu'ils y ont droit, quand vous avez par exemple le cas, donc ce profil aussi qui existe et qui est un petit peu récurrent, des gens qui sont présents en France depuis plus de 10 ans. Auparavant, ça donnait droit à un titre de séjour. Aujourd'hui, ça ne donne droit au fait qu'une commission soit consultée, mais pour les Algériens, parce que l'accord franco-algérien est, on va dire, plus favorable, ça maintient le droit à la délivrance d'un titre. Quand vous avez en face de vous un Algérien qui prouve sa présence en France depuis 15 ans, en ayant plusieurs preuves par an, des preuves certaines, des recommandés, des preuves d'administration, des choses certaines, pas quatre pauvres factures qui se battent en duel. Cette personne, vous prouvez qu'elle a droit à un titre, et quand le préfet continue à refuser de délivrer, et qu'il faut aller au tribunal, pour que le tribunal dise « mais oui, il y a les preuves, délivrez-lui un titre », c'est que là, on a quand même un souci, on a quand même une politique de résistance, où on se dit peut-être que si l'étranger passe à côté du délai de recours, finalement, c'est toujours ça de prix pour la préfecture, ça fait une personne en plus. Donc c'est vrai qu'il y a des fois où on gagne et on se dit c'est normal, et ça met quand même en lumière une politique actuelle du chiffre qui conduit à des décisions qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas fondées. Voilà. Après, il faut noter aussi qu'il y a des dossiers, notamment en rétention, où c'est le juge de la liberté et de la détention qui annule, et qui annule parce que la procédure judiciaire n'a pas été respectée, et ce n'est pas rien. Parce que quand vous annulez une procédure pour contrôle au faciès, ou parce que vous avez deux PV d'interpellation qui décrivent des faits complètement différents, alors que c'est censé être la même chose, parce que c'est la même heure, c'est daté par la même personne, et censé être les mêmes faits, enfin, il y en a un des deux qui aurait jamais dû se trouver dans la procédure, vous avez quand même un souci de l'égalité, et il est important que le juge puisse effectuer son contrôle sur les procédures judiciaires, parce que ça arrive à un étranger, mais ça pourrait nous arriver à nous. C'est vrai que nous, entre guillemets, Français blancs, donc Français d'origine, on ne voit pas le problème, parce qu'on n'est pas contrôlé toutes les 10 minutes. Mais enfin, on serait contrôlé toutes les 10 minutes. Ou alors, la chasse aux étrangers se ferait sur les Russes blonds aux yeux bleus, et tous les gens qui sont bien français se feraient contrôler toutes les 10 minutes. Peut-être qu'on ne verrait pas les choses de la même manière. En tout état de cause, il est très important de voir que le juge de la liberté et de la détention, le contrôle qu'il effectue, est primordial pour garantir la légalité et l'application du droit en France, même si des fois les gens se disent « Ah, lui, il est sorti sur un vice de procédure, c'est quand même pas normal ». Si, c'est normal, il faut quand même le rappeler à un moment donné.
C'était un entretien avec Sophie Mazas, avocate spécialisée dans la défense des sans-papiers, qui nous parlait des procédures les plus courantes en nous expliquant que si elle gagnait dans la majorité des cas, c'est que la préfecture avait agi sans avoir le droit pour elle. Pourquoi, comment ? Dans un autre entretien, nous illustrerons cette attitude avec des exemples concrets.